Lunette.
Non. Écoute,
Lunette.
Écoute, là, franchement, là...
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Présentement, sous nos yeux, en direct, c'est conférence de presse de la réunion des premiers ministres qui sont ensemble pour jaser, évidemment, encore une fois, de la menace, la crise des tarifs américains, la crise de nos voisins du Sud, appelez-le comme vous voulez. Bref, tout ce qui est en train de se passer au niveau économique. Et je vois le premier ministre du Manitoba appeler à la collaboration entre provinces présentement. Un dossier qui n'a jamais vraiment été réglé, là, les barrières interprovinciales. On sent qu'il y a de la résistance. Là, ils semblent bien unis ensemble, tous assis à la même table, mais on le sent que c'est un sujet qui est difficile, c'est pas évident. Puis des fois, on se demande si on n'est pas capable de s'entendre entre nous, les Canadiens. Pour la suite, ça risque d'être difficile. Puis évidemment, il y a plein de voix qui se joignent à la discussion. Puis entre autres, notre prochaine invitée qui s'est exprimée quand même dans les derniers jours, elle est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Mme Véronique Proulx, qui est au bout du fil. Mme Proulx, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Malgré tout?
Absolument, absolument. C'est un début d'année qui est difficile, qui nous secoue beaucoup, mais je vous dirais qu'on s'habitue jusqu'à un certain point dans ce climat d'incertitude-là. Avec la guerre tarifaire et le président Trump.
Je veux juste une question technique en partant. Êtes-vous sur le main libre présentement?
Non, je ne suis pas sur le main libre.
Ah, OK, parce que.
Vous ne m'entendez pas bien?
Ben, vous sonnez un petit peu écho, mais c'est supportable. Je vous demande. On va vivre avec.
Ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux.
Là. Ah oui, voilà, vous êtes arrivé.
Parfait.
C'est beaucoup mieux. Donc, allons-y dans le concret, parce que vous êtes quand même présidente de la Fédération des chambres de commerce, donc de toutes les chambres de commerce, j'imagine. C'est quoi le point principal qui vous préoccupe présentement? C'est une question quand même simple, mais j'imagine que vous avez eu ces discussions-là. Quel secteur ou quel point vous semble à privilégier présentement?
Bon, dans un premier temps, vous avez raison, on représente l'ensemble des chambres de commerce à travers le Québec, mais on représente aussi 1000 entreprises, des PME, des grands employeurs, manufacturiers, les gens dans le service. Donc, on représente vraiment les deux facettes. Et je vous dirais que bon, ça fait un an que la guerre tarifaire est en place, qu'on en parle, que c'est là qu'il y a des tarifs. Le plus gros, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'incertitude que ça cause. Au-delà des tarifs qui font très mal à l'industrie de l'acier, de l'aluminium et du bois d'œuvre, c'est les principaux secteurs touchés par les tarifs. Ce qui nous fait mal, c'est l'incertitude. Pourquoi l'incertitude? Parce qu'on ne sait jamais à quel moment, puis on l'a vu la semaine dernière, le président Trump a annoncé des tarifs de 100% sur toutes nos exportations. Est-ce qu'il va aller de l'avant? Sur quel produit ça va s'appliquer? Donc, ce va-et-vient-là, ça fait en sorte que nos entreprises ne savent plus trop s'ils doivent prendre les annonces au sérieux, s'il y aura des tarifs, pour combien de temps. Puis quand on a cette incertitude-là, ben on attend. On n'investit pas. Donc, on n'investit pas pour agrandir nos usines. On n'investit pas pour augmenter notre offre de services. On n'investit pas du côté américain. Puis on n'investit pas non plus pour diversifier nos marchés d'exportation parce qu'on attend de voir ce qui va se passer. Et c'est ça qui nous nuit, dans le fond, beaucoup au Québec depuis un an.
Puis ce qui semble très, très logique, évidemment. Par contre, tu sais, puis vous les avez nommés, il y a des secteurs plus touchés, là, des secteurs quand même importants. Là, quand on parle d'acier, c'est gros, le bois, c'est gros. Au Québec, au Canada, c'est dans nos ressources naturelles, puis c'est dans nos productions de base. Mais quand même, quand on regarde pour le reste, il y a une grosse majorité de produits, puis d'objets, puis d'échanges qui se font sans tarif. Je pense que c'est tout près de 90 % 87, à moins que je me trompe.
Exactement.
Donc, c'est pas nécessairement les tarifs en tant que tels plus que la peur et l'incertitude. C'est un peu ça.
Exactement. Vous avez raison, c'est environ 86-87 % des produits qu'on exporte aux États-Unis qui n'ont pas de tarifs parce qu'on a l'accord de libre-échange qui est en place. Les industries qui sont vraiment touchées, ben c'est celles qui ont des tarifs de 50 %, 45 %, celles que vous avez nommées.
Et c'est majeur, oui.
Ben c'est majeur pour ces gens-là. Puis c'est pas juste pour les grands exportateurs. Là. Pour toutes les entreprises, là, je pense aux entreprises dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a beaucoup à Mauricie aussi, des gens qui font la troisième transformation d'aluminium. Ces entreprises-là sont frappées de plein fouet. C'est pas toujours des grosses entreprises, c'est souvent de la petite et de la moyenne, qui n'ont pas la capacité d'absorber les tarifs qui sont en place, puis n'ont pas nécessairement les ressources non plus pour commencer à diversifier en Europe. Là. Fait que c'est pas simple, c'est pas facile pour ces gens-là, puis malheureusement, il y en a pour un petit bout temps. Là. Je veux dire, on n'est pas prêt de. Je pense pas qu'on est prêt de revoir l'administration Trump réduire de façon significative ces tarifs-là.
Mais pour ramener, parce que la peur n'est jamais bonne conseillère, puis on fait des réactions toujours un peu spéciales. On a eu de bons exemples pendant la pandémie. Là, la peur, c'est pas quelque chose qui est rassurant puis qui nous laisse le temps de réfléchir. Ça, souvent, on se lance d'un bord puis de l'autre. Mais dans l'optique là, où on veut ramener un peu, de stabilité puis d'enlever un peu de peur puis d'angoisse, l'histoire des barrières interprovinciales, c'est pas quelque chose qui devrait être en haut des priorités? À se dire, écoutez, à un moment donné, on le fait-tu pour vrai ou on fait semblant?
Ouais, c'est un très bon point. En fait, nous, ce qu'on dit là, depuis le début de la guerre tarifaire, c'est que le gouvernement fédéral, en l'occurrence le premier ministre Carney, il n'y a pas beaucoup d'influence sur ce que le président Trump va choisir de faire. Dans les faits, là, on le voit, là, peu importe qui se rapproche de lui, qui annonce une entente avec la Chine, d'une façon ou d'une autre, le président est très intempestif, très difficile à suivre.
C'est son histoire, là, c'est son agenda, les autres, ça ne l'intéresse pas. Là.
Exactement. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on devrait regarder ce sur quoi on a du contrôle. Que le premier ministre regarde ce qui est dans sa cour. Puis ce qu'il y a dans sa cour, vous avez raison, c'est le commerce interprovincial. C'est aussi les travailleurs étrangers temporaires en région. C'est le gouvernement fédéral là, qui a décidé de ne pas renouveler les permis de travail de ces gens-là. Et on a beaucoup d'entreprises présentement qui ne sont pas affectées par la guerre tarifaire, qui ont la capacité de faire fonctionner leur entreprise, d'offrir des services. Mais parce que le gouvernement fédéral ne renouvelle pas les permis de leurs travailleurs temporaires, bien, elles vont être contraintes de réduire leur production, de réduire les heures de service. Ça fait que ça, c'est un non-sens. Après ça, toute la question des contrats publics. Pourquoi une entreprise resterait au Québec, une entreprise manufacturière, par exemple, là, si elle exporte aux États-Unis, la frontière se ferme, puis quand elle veut vendre à son propre gouvernement, il n'y a rien qui fait en sorte qu'on privilégie les entreprises qui fabriquent ici et qui emploient ici.
Ils achètent en Chine.
Exactement. Puis je termine avec ce quatrième exemple-là de levier sur lequel le gouvernement fédéral a du contrôle. C'est toute la question de la stratégie de la défense industrielle. Ça fait depuis l'automne dernier qu'on nous en parle pour le secteur de la défense. Il n'y a rien qui a été annoncé encore. Alors pour nous, oui, la guerre tarifaire, plein d'incertitudes, mais si le gouvernement fédéral veut faire quelque chose qui passe la parole aux actes, que ça soit sur les contrats publics, sur l'immigration, sur la stratégie de la défense, puis vous l'avez dit, les barrières au commerce interprovincial, c'est aussi un élément qui est important, puis sur lequel on a du contrôle pour inciter nos entreprises à rester au Québec puis à investir ici.
Est-ce que c'est moins électoralement gagnant, peut-être, de plancher là-dessus puis de créer une chicane interprovinciale? Parce que ces barrières-là, qu'on le veuille ou non, ont été instaurées pour des raisons. Là, on peut juger là, si on trouve que c'est des bonnes ou des mauvaises raisons. Moi, je pense qu'en temps de crise, maintenant, il faut lâcher l'orgueil puis aller all-in pour que tout se déplace le plus facilement possible. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'électoral là-dedans? Parce que, tu sais, on va le dire quand même, une crise, ça a bien servi Mark Carney. Là. Les gens ont voté, ils ont eu peur et ont dit on va faire confiance au monsieur qui est banquier et qui connaît le monde d'aujourd'hui parce qu'il n'arrête pas de nous le dire. Puis il y a quelque chose là-dedans. On dirait qu'il y a une résistance fantôme à quelque part. Là.
Oui. Mais je vous dirais, sur les barrières au commerce interprovincial, il faut se rappeler que le fédéral a bougé sur ce sur quoi il y avait du contrôle, là, dans le sens qu'il y a certains éléments sur lesquels ils ont pu annoncer des mesures, mais le gros des barrières, ce sont les provinces elles-mêmes qui les ont mis en place.
Ouais.
Fait que ça revient aux provinces. Puis le Québec est une des provinces qui a le plus d'exceptions. Donc, autrement dit, on a mis le plus de barrières, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre. On peut passer à nos gens dans le secteur de la construction. On a mis beaucoup de barrières en place pour protéger notre marché. Fait qu'en quelque part, le Québec est peut-être la province qui a le plus à perdre. Et c'est peut-être pourquoi, dans le fond, le gouvernement actuel, le premier ministre Legault, n'a pas été un des leaders dans les provinces à abaisser les barrières jusqu'à présent. Mais vous avez raison de le dire, là, dans un contexte de crise, il faut penser au-delà du Québec. Il faut regarder le Canada dans son ensemble. Puis qu'est-ce qu'on a gagné à ouvrir nos barrières et à travailler mieux ensemble? Parce que c'est pas normal que nos entreprises aient plus de facilité à exporter aux États-Unis qu'à vendre en Ontario ou en Alberta. C'est un non-sens.
Mais qu'est-ce que ça va prendre, justement, pour que ça change? Parce que vous l'avez dit, c'est pas normal, c'est un non-sens. On est plongé dans un illogisme assez profond, là, présentement. Puis il y a plusieurs études qui sont sorties dans lesquelles on apprenait que ça pourrait rapporter entre 200 et 215 milliards par année. Ça stimulerait le PIB, ça pourrait faire augmenter le revenu du ménage moyen.
On annule quasiment l'effet des tarifs.
Exactement, au Canada. Donc, qu'est-ce que ça va prendre, finalement, pour qu'on se réveille puis qu'on agisse?
Ben, je pense que c'est là où vous le mentionnez juste avant, là, c'est un peu politique. Parce que qu'est-ce qu'un premier ministre du Québec, là, on aura un nouveau premier ministre bientôt, qu'est-ce qu'il aura à gagner, par exemple, à réduire les contraintes liées à la langue française? Il n'y a personne qui va faire ça, mais je donne cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on aurait à gagner à favoriser davantage de main-d'œuvre dans le secteur de la construction qui rentre au Québec, alors que c'est un milieu qui est syndiqué? Fait que, tu sais, c'est pas si évident que ça quand on regarde les exceptions qui sont propres au Québec. Là. Fait que moi, je pense que plus les autres provinces ouvrent leurs barrières, plus ça va pousser le gouvernement du Québec à faire la même chose. On a vu l'Ontario, on a vu, si je ne me trompe pas, là, c'est la Nouvelle-Écosse aussi là, qui a été assez avant-gardiste à ce niveau-là. Puis plus nos entreprises le demandent aussi, bien, plus le gouvernement a des chances de bouger. Mais je pense que quand on regarde les leviers les plus importants là, dans le contexte de la guerre tarifaire, puis je reviens puis j'en reparle encore, c'est la main-d'œuvre. Puis vous m'avez posé la question au début, qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Moi, j'ai fait le tour du Québec depuis le mois d'octobre. Là, j'ai fait toutes les régions du Québec. Et la première chose dont on parle avant les tarifs, c'est l'impact de la pénurie de main-d'œuvre dans nos entreprises en région. Ouais, on nous dit avant les tarifs, là, c'est ce qui nous fait le plus mal, puis le gouvernement n'agit pas.
Et je vais ajouter quand même une petite couche. C'est un enjeu qui existe depuis des décennies. Moi, je me souviens, début des années 2000, on me parlait de la courbe démographique du Québec, de la génération des baby-boomers qui allaient un jour tous se ramasser à retraite en même temps. Et il n'y a pas eu d'action. Personne n'a bougé. Et là, on arrive... Parce que, tu sais, vous savez qu'il y a des gens qui nous écrivent. On fait de la radio, on est live, on est public. Les gens nous écrivent en temps réel. Puis il y a plein de gens qui nous disent, oui, mais là, l'immigration, on va noyer notre culture, puis on n'a peut-être pas les ressources pour servir tous ces gens-là qui arrivent d'un coup. Ce qui sont de vrais enjeux qu'on doit prendre en compte. Mais on arrive à un... Je pense à un carrefour où on aurait dû agir avant. On ne l'a pas fait. Et là, on est en panique. Mais des fois, en panique, il faut ce qu'il faut. Est-ce que j'ai tort?
Bien, vous l'avez bien résumé. Puis moi, j'apporte la nuance, puis notamment pour les gens qui nous écoutent. Tu sais, moi, je parle d'immigration économique. Dans les dernières années, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'immigration temporaire, mais il y a eu des demandeurs d'asile, il y a eu plein de catégories d'immigrants.
Les étudiants,
ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, puis c'est vrai que ça a mis de la pression sur les systèmes. Mais quand on parle d'immigration temporaire, là, on parle de gens qui sont déjà là. Ils sont déjà en région, ouais. Ils sont en emploi, ils permettent à certaines entreprises de garder les travailleurs. Des Québécois là, qui sont ici, là, des citoyens canadiens, à les garder en poste, c'est des gens qui ont des logements, dont les enfants sont dans nos écoles, sont déjà là. Fait que nous, notre demande par rapport à l'immigration temporaire, c'est pas nécessairement de l'augmenter pour l'instant, c'est de maintenir les niveaux. Ah oui. C'est de faire en sorte que les gens qui sont là soient pas obligés de repartir chez eux, qu'ils puissent garder leur job, parce que dans le fond, on a payé pour les faire venir, on les a accompagnés, on les a intégrés, puis ils nous permettent de garder des usines en région, ils nous permettent de garder des restaurants en région, des dépanneurs, des épiceries, partout à travers le Québec, c'est le même message. Puis ça, je pense qu'il faut nuancer. C'est pas l'immigration dans son ensemble. On parle vraiment de travailleurs qui sont ici pour travailler puis contribuer au maintien de nos régions.
Madame Proulx, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Puis il va falloir se jaser parce que c'est pas fini, ces affaires-là. Merci.
Absolument, avec grand plaisir. Merci.
Au plaisir. Au revoir. Véronique Proulx, elle est présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On fait une pause au retour. Qu'est-ce qui se passe, UX?
Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.